France Inter.
Maestro, générique. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, en direct et en public au studio 104 de Radio France, Radio Paris, Radio Vichy, Radio Londres, les ondes de choc. De 1940 à 1944, pendant les 4 années d'occupation, les Français sont les témoins d'un conflit invisible, un combat acharné, franco-français, sur un front inédit. Car les hommes et les femmes qui le livrent n'ont ni fusil, ni char d'assaut, non. Ils ont des micros et des émetteurs. Leur guerre, c'est une guerre à écouter. Paris, Vichy, Londres, trois villes, trois radios. Celle d'Hitler, celle de Pétain, celle du général de Gaulle. Trois stations bataillant pour la conquête de l'opinion. Car dans leurs salons, dans les écoles, dans les usines, autour de leurs postes, à Galen souvent, les Français écoutent ces voix qu'ils admirent ou qu'ils détestent. De la débâcle jusqu'à l'été 44, les radios scandent la guerre. Elles trouvent les bons mots pour convaincre les Français de collaborer ou de résister. Les bonnes mélodies pour ridiculiser leurs ennemis et les bons tribuns pour mettre le pays au pas ou au contraire. Susciter dans ces années d'angoisse ce que les nazis et leurs collaborateurs s'appliquent à étouffer, l'espoir. Notre invitée aujourd'hui, Aurélie Luneau, historienne, autrice d'une thèse sur la BBC et les Français, publiée chez Perrin sous le titre Radio Londres, Les Voix de la Liberté. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Romain Weber, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation et mise en scène Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Paris, Gare de l'Est, 16 septembre 1943. Un train s'apprête à partir devant une foule émue. Aux fenêtres, s'accrochant aux portières, des jeunes hommes embrassent des femmes, saluent des amis venus leur dire au revoir et des parents qui pleurent. Là, sur le quai, un journaliste se fraye un passage, encombré par son gros magnéto. Il vient assister à ces au revoir qui sont en fait des adieux. Car ce train conduit ces hommes en Allemagne et tous n'en reviendront pas. Pourtant, rien ne les y oblige. Ce sont des Français engagés volontaires dans la Waffen-SS. Le journaliste, lui, travaille pour Radio Paris, servile. Il leur tend son micro.
J'ai devant moi quatre Français, quatre Waffen-SS qui vont partir tout à l'heure. Eh bien, quelles sont vos dernières impressions ?
Les impressions sont très bonnes. Je suis content d'aller dans les SS et j'espère combattre pour la France.
Bravo, et vous ?
Depuis 20 ans, je pense à l'Europe. J'ai pensé à l'Europe dans les rangs des INP, et actuellement, je pense même donner mon sang pour l'Europe.
C'est magnifique, vous êtes tous pleins d'un enthousiasme. J'en vois qui se penchent par la fenêtre. Il y en a un qui fait partie d'ailleurs des milices françaises. Je vais essayer de m'approcher et de leur faire dire quelques mots. Ancien collaborateur de la France au travail, le Tellier, je dis bonjour à tous les amis du journalisme français, et je crie mort aux Juifs.
Le bras tendu, les nazis français saluent leurs proches qui leur répondent en chantant la Marseillaise. Une certaine France touche le fond, jusqu'à souiller son hymne national. La nuit tombe et le convoi s'éloigne. On ne perçoit plus que la lumière rouge de la queue du train et des deux drapeaux qui y sont accrochés et que le vent fait flotter ensemble. L'un est bleu, blanc, rouge, l'autre est noir, marqué de deux S en forme d'éclair. Le quai se vide doucement et le journaliste pousse au crime de Radio Paris retourne dans ses studios. Le reportage qu'il va monter encouragera peut-être des auditeurs à prendre les prochains trains. Mais au même moment, à Alger, un homme attend un avion. Il a quitté clandestinement la métropole. Il est arrivé en Algérie après une longue épopée. Il s'appelle Pierre Dac. C'est l'humoriste le plus célèbre de France et il figure sur une liste dite de juifs influents établie par les nazis. Il attend de partir pour Londres et il y arrive le 13 octobre. Là-bas, il est attendu dans les locaux de la BBC, la radio britannique. mais c'est un Français qui l'accueille. Son nom, Michel Saint-Denis. Mon cher Pierre, lui dit cet homme, vous êtes d'ores et déjà adopté par nous. Prenez quelques jours de réflexion et pensez longuement à ce que vous allez dire au micro de la radio française de Londres. Nous sommes à l'automne 43. Pierre Dac intègre la radio de la Résistance. Cela fait 3 ans qu'il essaye de la rejoindre. 3 ans depuis que les nazis ont pris possession de la France et que les radios françaises sont passées sous leur contrôle, ce qui donne ceci.
J'écoute.
Tu écoutes.
Ils écoutent.
Vous écoutez. Nous écoutons Radio Paris.
Il faut bien le dire, monsieur. L'Allemagne est restée, pour beaucoup, un épouvantail, une espèce d'ogre. Tenez, souvenez-vous, monsieur, des journaux et de tout ce qu'on nous a raconté par radio dès le début de la guerre. Des tortures par-ci, des tortures par-là, des pillages, enfin, etc., etc. Mais le cerveau le plus lucide parvenait à en être ébranlé. Ah, il faut cependant bien reconnaître que l'occupant a été très, très correct.
Absolument de votre avis.
Ah, n'est-ce pas? Et puis voyez-vous, monsieur, l'Angleterre ne peut qu'aider la France à s'enjuiver.
Par conséquent, votre conclusion est nettement collaboration franco-allemande.
Ah oui, monsieur. Et tenez, n'oublions pas que le chef du pays nous a donné des directives. Enfin, on ne peut tout de même pas accuser le grand maréchal Pétain d'être un traître, hein?
Depuis l'été 40, Radio Paris est la voix de l'Allemagne. La station diffuse des programmes pensés par une extrême droite française sous le contrôle du ministre de la propagande d'Hitler, Joseph Goebbels, pour qui, je cite, « la radio est l'instrument le plus moderne pour influencer les masses ». En France, on recense 5 millions de postes. Alors, en entrant dans le pays, les Allemands n'ont pas oublié de conquérir les émetteurs, ces immenses pylônes, seuls capables de faire pénétrer Hitler dans les foyers français. Et ce, sans que Vichy ait son mot à dire. À Vichy, justement. Le gouvernement aménage un studio de radio. Le maréchal, lui aussi, est convaincu de l'importance des ondes. Antisémites, anglophobes, conservateurs, les programmes sont consacrés à leur gloire et à celle du régime de Pétain. Mais Radio Vichy et Radio Paris ne font pas que de la propagande. Pour qu'il y ait des auditeurs, il faut autre chose que des informations orientées. Il faut des émissions de variété. Oui. Des concours de chant, des feuilletons, des recettes de cuisine partant de rationnement, des concerts de musiciens à succès, comme par exemple Django Reinhardt, Tino Rossi, Maurice Chevalier, et même des émissions pour les enfants. Mais tous les jours, à 19h15, ces programmes s'interrompent, parce que dans la nuit, un émetteur radio peut servir de point de repère au radar des avions ennemis, et l'ennemi, c'est l'Angleterre, un pays où pourtant, des Français, après 19h15, continuent, eux, à émettre. Alors, en France, certains baissent le volume de leur poste TSF et tournent la molette à la recherche d'ondes interdites.
Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand.
La guerre des ondes commence à Londres le 18 juin 1940. À 18h ce jour-là, un obscur sous-secrétaire d'État du gouvernement français démissionnaire entre à la BBC. C'est un général inconnu, grand, sec, limite désagréable, dit-on. Sans un mot, sans un regard pour quiconque, il s'assied dans un studio. Il enlève ses gants blancs, pose son képi et il parle. Pétain a demandé l'armistice la veille, lui appelle les Français à continuer le combat. Et c'est comme ça que les Français découvrent le général de Gaulle par la voix, cet instrument qui peut soulever des montagnes, la preuve, avec de Gaulle. En ce 18 juin 1940, quelques-uns peu nombreux l'entendent pour la première fois. Pour le général, comme pour ses ennemis, la radio est une arme de guerre. Et Churchill donne l'ordre que ses troupes, si maigres soient-elles, disposent tous les jours d'un temps d'antenne. 19 juin, le lendemain, à 20h30. Dans le même studio, deux journalistes français s'approchent du même micro. Jean Marin, c'est le nom de l'un de ces deux hommes, s'adresse au peuple français et lui dit « Nous avons décidé aujourd'hui d'être ensemble, nous les Français, tous les Français, ceux qui sont libres, comme ceux qui ne le sont pas. Et ce sera notre moyen à nous d'être ensemble que de nous retrouver chaque jour sur les routes mystérieuses des ondes libres. Tous les soirs, à 20h15 en effet, les émetteurs britanniques diffusent la dissidence par-delà la Manche. D'abord 10 minutes de nouvelles, ensuite les 5 minutes de la France libre que le général confie à son meilleur allié, Maurice Schumann. Puis ce sont les 30 minutes d'une émission qui prend pour titre « Les Français parlent aux Français ». À Londres, sous les bombes allemandes, l'équipe est montée au débotté. À sa tête, un homme de théâtre du nom de Michel Saint-Denis. Il recrute une petite équipe, des chansonniers, des journalistes, de novices pour l'immense majorité. Dans les petits bureaux dont il dispose, quelques tables, des bancs d'école et pas grand-chose de plus, il leur apprend à poser leur voix, à choisir leurs mots. Égare à ceux qui, en France, se font attraper à les écouter, la BBC est interdite. Alors, le soir venu, on l'écoute tout bas.
Ici, Londres. Les Français parlent aux Français.
Mais combien sont-ils au début à chercher ces ondes? Difficile à dire. En tout cas, quelques lettres rares parviennent jusqu'en Angleterre. Un Breton qui réclame que Londres passe la Marseillaise. Un habitant de Chambéry qui les informe que les rues se vident à l'heure de la BBC. Une autre lettre encore, arrivée celle-là en janvier 41, étrange. Elle prétend que sur les côtes françaises de la Manche, on voit apparaître dans les villes une inscription tracée à la craie, au charbon, à la peinture. La lettre V. Sur les murs, sur les voitures, sur les affiches, V comme victoire. Radio Londres s'en saisit. Les Français doivent comprendre que la résistance est tout autour d'eux.
Désespérés, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, V, 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 V. Sur les murs et sur les pavés, faites des V. Mais vous pouvez faire en DV les doryphores. Et sans remords, et sans danger, vous sifflerez, vous chanterez.
V, 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 V.
Montrer qu'il existe un espoir, dire la vérité, y compris les mauvaises nouvelles. Voilà les objectifs de Radio Londres. Et appeler à la résistance, si petite soit-elle, oui, tracer des V sur les réverbères, dans les écoles, sur les voitures allemandes, ou même, pourquoi pas, envoyer un joueur d'orgue de barbarie sous les fenêtres des Allemands. Bref, tout faire pour déprimer l'ennemi. Pour chaque événement calendaire, le 11 mai, fête de Jeanne d'Arc, le 14 juillet, le 11 novembre, tous les rassemblements interdits sont orchestrés par Londres. On appelle les Français à sortir, à rechercher dans les yeux des passants la flamme de la résistance. À Paris, on lit dans un journal clandestin un poème qui donne le credo. La BBC, tu écouteras chaque jour avidement. Radio Paris, tu laisseras car il est poche assurément. Avec De Gaulle, tu te battras au grand jour du débarquement. Ceux de Vichy, tu mépriseras et leurs propos avilissants. Et voilà Vichy qui menace maintenant les auditeurs de 2 ans d'emprisonnement et les Allemands qui demandent même la peine de mort. Alors, à Radio Paris, on se met aussi à chanter.
Au jardin d'Angleterre, les bobards sont fleuris.
Au jardin d'Angleterre, les bobards sont fleuris.
Tous les menteurs du monde parlent à la BBC. Au gré de ses ondes,
qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Au gré de ses ondes,
qu'il fait bon mentir.
Ici la radio de Londres.
Radez, bobards et chansons.
Divagations d'hypocondres
ou boniment de francs-maçons.
Les chers auditeurs anglomanes, à force d'absorber du son, seraient-ils devenus des ânes ?
Rien ne peut entamer le succès de Radio Londres, d'autant que partout, les privations, les exactions de l'occupant sont cruelles. Et que l'on aime Pétain ou pas, on déteste les Allemands. Alors, on ne croit plus ni Radio Paris, ni Radio Vichy. Dans les queues des ravitaillements, dans la rue, chez le boulanger, on siffle les airs de la BBC. En Angleterre, on reçoit des cartes, de plus en plus, où elles sont parfois critiques, acerbes, mais elles sont surtout reconnaissantes. Comme celle de cet homme qui écrit en 1941 « J'ai acheté une radio parce que grâce à vous, la vie est une fois de plus retournée dans nos cœurs. » Mais le succès de Londres se heurte à l'enlisement de la guerre. Des Français par centaines sont fusillés par les Allemands en représailles des actions de résistance. L'entrée en guerre de l'URSS pousse le régime de Pétain toujours plus loin dans la collaboration. L'Allemagne demande de la main-d'œuvre, Vichy la lui fournit. Et progressivement, entre 1942 et 1943, les travailleurs français doivent partir pour l'Allemagne. L'Allemagne, justement. Un homme en revient. Nous sommes le 27 juin 1943. Et dans les studios de Radio Vichy, cet individu écrit l'un de ses deux éditoriaux quotidiens. Il est immense, l'individu. Il a de grandes mains. Des mains d'étrangleur, dira sa secrétaire après la guerre. C'est un journaliste d'extrême droite qui a pour devise « La vie n'est pas neutre, elle consiste à prendre parti hardiment ». Cet homme s'appelle Philippe Henriot et le parti qu'il a pris, c'est celui de la France de Vichy. Un chemin qui, de la fidélité à Pétain, l'a conduit petit à petit à l'admiration sans borne de l'Allemagne nazie et l'a plongé dans un antisémitisme obsédant. Ce 27 juin 1943, Henriot raconte son voyage en Allemagne sur les ondes de Paris et de Vichy.
Bien entendu, je suis allé au foyer français afin de m'entretenir avec quelques-uns des travailleurs de chez nous. Quelles que soient les réserves faites par les uns ou les autres sur les conditions de leur nouvelle existence, tous ou presque sont stupéfaits de découvrir une Allemagne qu'on leur avait dite épuisée, de découvrir dans cette Allemagne une si prodigieuse vitalité et un niveau de vie aussi satisfaisant. Car enfin, toute la propagande anglo-saxonne, toute son action, toute son influence, repose sur une seule affirmation répétée inlassablement depuis 1939. L'Allemagne va perdre la guerre.
Percutant, sarcastique, orateur, Henriot fait peur. Il est à contre-courant d'opinion, il le sait. Il sait aussi que la guerre des ondes a déjà remporté par Londres, mais son objectif est ailleurs. Lui, ce qu'il veut, c'est briser le coup de la résistance en effrayant les Français. Les bombardements anglais, les crimes des maquisards, ces jeunes qui se cachent pour ne pas partir travailler en Allemagne, la célébration des nazis, Henriot est l'homme de l'Allemagne. Les Français le savent, mais ils sont encore extrêmement nombreux à l'écouter. Le marchand d'épouvante, surnomme-t-on Henriot. Sur les ondes de Paris et de Vichy, la haine se répand, l'antisémitisme passe un cap. Des juifs sont raflés, internés. À Radio Londres, on s'en émeut, tandis que sur Radio Paris, on part en reportage au camp d'internement de Pithiviers.
Bien que les juifs étrangers ne soient ici que depuis 48 heures, comme je vous le disais tout à l'heure, l'horaire du camp est déjà strictement établi. Maintenant, il ne faut pas trop s'apitoyer, si vous le voulez, sur le sort de ces hommes, qui, en toute autre circonstance, il faut bien le dire, auraient déjà été depuis longtemps chassés de France et qui vivaient chez nous absolument comme des parasites honteux. C'était là vraiment le ramassis de tous les métèques échappés des ghettos d'Europe centrale et qui grouillaient comme une sorte de cour des miracles dans Paris. Et je vous assure que c'est une mesure de salubrité publique qui a été prise enfin en France occupée, alors qu'elle avait déjà été prise depuis plusieurs mois en France non occupée. Et je ne doute pas que cette cure de plein air, que cette cure devient un petit peu rude, ne leur fasse physiquement, et en tout cas moralement sûrement, le plus grand bien.
Le juif est grand pour qui se courbe devant lui.
La guerre s'éternise et l'espoir entretenu par Londres s'effrite. On attend un débarquement qui n'arrive pas. On attend des mois si longs, si sombres. Et c'est au cœur de l'angoisse que l'humoriste le plus célèbre de France, un Français juif qu'on surnomme le roi des loufoques et qui s'appelle donc Pierre Dac, arrive à Londres par Alger après une longue épopée. Sa mission ? Faire rire les Français enfoncés dans la guerre et surtout, faire taire Philippe Henriot. Janvier 1944, Londres. Michel Saint-Denis, le patron des Français parlent aux Français depuis 3 ans et demi, a une mauvaise nouvelle à annoncer à ses équipes. La veille, Philippe Henriot, le roi de la radio collaborationniste, a été nommé ministre de la propagande de Vichy. « Mes amis, dit Saint-Denis, vous allez vite comprendre combien cet homme est dangereux. » De fait, le 29 mars, Henriot prend la parole. Il parle depuis la Haute-Savoie. Là, sur un plateau, se sont réfugiés des centaines de jeunes qui n'ont pas voulu partir travailler en Allemagne. Mais après des semaines de combat, le maquis d'Aiglières, puisqu'il s'agit de lui, est écrasé dans le sang par la milice, la police de Vichy et l'armée allemande. Henriot assiste au massacre.
On peut voir les prisonniers faits par les forces du maintien de l'ordre. Quand je les regardais, que je les entendais, je souffrais. J'aurais voulu trouver des hommes. J'ai trouvé des loques. Je le dis comme je l'ai vu. En les écoutant, Pensez à vous, jeunes gens. J'aurais voulu vous montrer ces pauvres caricatures de héros devenus vagabonds et dans les yeux de qui ne se lisait plus qu'une morne peur. Après l'interrogatoire d'identité, ils partent dans les camions vers les prisons qui les attendent. Oui, en vérité, il y aura sans doute, hélas, encore des attentats, encore des crimes, encore des morts. Mais la légende de la résistance est bien morte.
À Londres, les efforts d'Henriot pour briser la résistance inquiètent. Et aucun speaker n'est assez fort pour le faire taire. Michel Saint-Denis prend alors Pierre Dacapard. Mon vieux, il n'y a guère plus que vous pour essayer de le contrer. Merci du cadeau, répond Pierre Dac. Créateur d'un journal comique, Los Amual, qui avant-guerre a connu un grand succès, son métier, c'est l'humour et la chanson. C'est donc avec ces armes-là qu'il ouvre les hostilités.
Le roi des salauds ressemble à Hitler, Hitler au Führer et le Führer à Henriot. Ce qui fait qu'en fin de compte, le roi des salauds ressemble à Henriot comme deux gouttes d'eau.
Dac fait mouche, ses chansons horripilent Henriot qui lui répond immédiatement. Et une lutte à mort commence. Au printemps 44, la guerre des ondes n'est plus une guerre entre Paris, Vichy et Londres, ou entre Hitler, Pétain et De Gaulle. Non, c'est une guerre entre deux vedettes, Dac contre Henriot. Le premier porte ses coups en chanson et en moquerie. Le second lui répond à la manière des nazis.
Le 15 août 1893, jour anniversaire de la naissance de Napoléon, s'il vous plaît. Naissait à Chalon-sur-Marne un certain Isaac André, fils de Salomon et de Berthe Carr. Pareil à la plupart de ses coreligionnaires, il était secrètement fier de sa race, mais gêné par son nom. Et dans la France de 1939, tel qui ne connaissait pas le nom de Branly connaissait celui de Pierre Dac. Mais où nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre Dac prend la défense de la France. C'est d'une si énorme cocasserie qu'on voit bien qu'il ne l'a pas fait exprès. Qu'est-ce qu'Isard, fils de Salomon, peut bien connaître de la France ?
À l'écoute de ces mots, Dac perd son humour. Lui, le juif alsacien, lui, l'ancien combattant de 14, lui, contraint de quitter son pays parce que juif, précisément, ne répondra pas cette fois par une plaisanterie, non. Nous sommes le 10 mai 44, fou de colère. Dac écrit sa réponse en quelques heures. Le lendemain, il est au micro de Radio Londres.
Si l'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. Tournez à gauche, dans l'allée, et à la sixième rangée, arrêtez-vous devant la dixième tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands, le 8 octobre 1915, aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, tous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription. Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez.
Midi à la cantine de la BBC à Londres, donc, Dac dit à Schumann. S'il n'y avait pas eu De Gaulle, mon frère serait mort pour rien. Oui, c'est pour lui qu'il est venu à Londres, et c'est pour lui qu'il se bat contre Henriot. Mais, écrit Dac, qu'est-ce qui m'avait donc ainsi poussé à écrire son épitaphe ? alors que j'ignorais totalement le sort fatal qui devait être le sien quelques semaines plus tard. Une poignée de jours après cette passe d'armes, toujours aussi exalté, Henriot retourne en Allemagne. Il visite des camps de travailleurs, décrit à la radio des conditions de vie extraordinaires. Et, honneur ultime, il est reçu par Goebbels en personne. Et les deux monstres échangent quelques mots chaleureux. Mais alors qu'Henriot célèbre l'Allemagne, en France, le 6 juin 1944, les ondes interdites annoncent un grand événement.
Le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France.
Le débarquement de Normandie commence. La veille, Radio Londres a diffusé 16 longues minutes de messages énigmatiques. Tuez les chenilles, elles sont nuisibles. Les foins sont coupés. Et bien sûr, les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Cette poésie de l'étrange, comme on l'appelle, ces messages cryptés adressés aux résistants, les auditeurs y sont habitués maintenant. Mais cela annonce le jour J, le débarquement, et ça change tout. Alors, Radio Londres honore son ultime fonction, accompagner les Français et les troupes alliées dans la libération du pays, leur donner les mots d'ordre, appeler au soulèvement. Maurice Schumann, porte-parole du général de Gaulle, participe au débarquement et raconte au micro la marche vers Paris. Quand, sur la route, les Français reconnaissent la voix de celui qui leur parle depuis 4 ans, on l'embrasse, on lui offre à boire, à manger et même des femmes à épouser. Radio Londres découvre l'ampleur de son succès. À mesure que le territoire se libère, que les émetteurs sont repris, les voix de Paris et de Vichy s'évaporent. Les voix collabos tremblent, à l'exception de celle d'Henriot. Oui, jusqu'au bout, il prend le micro contre les assassins du ciel, dit-il, les gangsters anglo-américains, les patriotes sadiques. Il décrit les bombardements, listant les morts, les maisons et les jardins détruits. Ces pertes sont tragiques, certes, mais, dit-on à Londres, on sent percer chez Henriot le regret que les bombardements ne provoquent pas plus de victimes encore. Le 28 juin à 12h40, les Français qui veulent l'écouter se placent comme d'habitude devant leur poste. Mais ce n'est pas sa voix qu'ils entendent. C'est celle du chef du gouvernement, Pierre Laval.
Vous êtes venus comme tous les jours, à la même heure, pour entendre la voix de Philippe Henriot. Vous ne l'entendrez plus. Philippe Henriot a été assassiné ce matin au ministère de l'Information. Il a été abattu à coups de revolver, sous les yeux même de sa femme.
Henriot est mort. À Paris, rue de Solferino, là, juste à côté de l'ambassade d'Allemagne, des résistants sont entrés dans sa chambre et l'ont abattu. Plus tôt dans la journée, la dernière photo prise de lui le montre garde l'Est. Il était venu dire au revoir à son fils qui part pour l'Allemagne avec un groupe de Français engagés dans la Wehrmacht. Il les regarde fièrement, ces jeunes, dans leurs wagons sur lesquels ils ont écrit « Vive Henriot, vive la France !» Vichy et Goebbels pleurent leur plus grand orateur. Et ses funérailles seront la dernière célébration du régime de Pétain. Ainsi que je lui avais prédit, précise Pierre Dac au micro. Philippe Henriot est mort pour Hitler, fusillé par les Français, ou plus exactement, mitraillé par eux. Le 1er août, la division Leclerc débarque en Normandie. Le 17, Radio Paris brûle ses archives et abandonne ses locaux. Le 19, Laval s'enfuit, puis Pétain le lendemain. Alors, Radio Londres annonce, Radio Paris est morte, Radio Vichy agonise. À Paris, sur les ondes reconquises, des résistants s'emparent de la radio. L'heure de la libération définitive a sonné, annonce un jeune reporter du nom de Pierre Crenès. Il est sur la place de la République dans les dernières fusillades et rue de Rivoli quand les Américains arrivent. Le 25 août, sur la place de l'Hôtel de Ville, au moment précis où les Parisiens découvrent le visage du général dont ils ne connaissaient que la voix, le micro tente de restituer la liesse, tendait l'oreille.
Le général de Gaulle se présente maintenant au balcon de l'hôtel de ville. Sur la place, des milliers et des milliers de personnes sont massées. La nouvelle de son arrivée s'étant propagée comme une traînée de poudre. L'enthousiasme des Parisiens est à son comble. Les grilles qui entourent l'édifice sont assaillies. Chacun essaye de s'y jucher pour être plus proche de son chef. D'autres se hissent sur les lampadaires. Les drapeaux sont agités. Les barrages formés par des pompiers sont remplis. Les acclamations qui saluent le général de Gaulle pouvaient mesurer l'affection profonde. Je dirais même l'amour que chaque Français a dans le fond de son cœur pour cet homme qui a sauvé son pays. La foule entonne la Marseillaise.
C'est le 24 octobre que Radio Londres émet pour la dernière fois. La France est libérée, ses ondes n'ont plus lieu d'être. Elle passe alors le témoin à la radiodiffusion française, à nouveau libre. Alors, Saint-Denis, le patron des Français parle-t-au français, s'approche une dernière fois de son micro. Il verse une larme et dit « Nous rentrons pour nous remettre au travail avec tous les autres ». Pour que vous retrouviez un milieu où vous pourrez vous sentir libre, heureux et fier, pour bâtir avec nous un monde de paix. Des ondes outragées, brisées, martyrisées, mais des ondes libérées.
Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la guerre des ondes en direct et en public du studio 104 de Radio France. Notre invité, sur le plateau, parce que là, nous avons plus de 700 invités de l'autre côté, en face. Donc, sur le plateau, Aurélie Luneau, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Historienne, productrice de l'émission De Cause, avez fait le magazine de l'environnement sur France Culture. Vous êtes l'autrice d'une thèse sur la BBC et les Français, publiée chez Perrin, sous le titre « Radio Londres, les voix de la liberté ». Autrice également du livre « Je vous écris de France », publié chez l'Iconoclast, et de l'appel du 18 juin, tout récemment, chez Flammarion, en 2020. Donc, vous avez publié ce livre passionnant « Je vous écris de France », qui rassemble des centaines de lettres envoyées à Radio Londres par des Français. Est-ce qu'il y avait des auditeurs aussi jeunes que notre jeune public? Car je rappelle à nos auditeurs, s'ils prennent l'émission aujourd'hui, en ce moment même, là, que nous la dédions à 700 jeunes, des collégiens et collégiennes, lycéennes et lycéens de Paris et alentour. Donc, est-ce qu'il y avait un public aussi jeune que celui-là?
Oui. Oui, oui, beaucoup, beaucoup de jeunes écoutaient Radio Londres et c'est tout, comment le savoir et les atouts de cette jeunesse aussi, aujourd'hui encore, hein, c'est vraiment cette insouciance, c'est la liberté totale d'agir sans se poser de questions et sans imaginer le pire. Et donc, parmi les lettres que j'ai eu l'occasion de retrouver en Angleterre, dans un petit centre de recherche et d'archives, il y avait 1000 lettres qui étaient là, enfermées dans des cartons, et parmi des milliers qui étaient parvenus à Radio Londres durant ces années de guerre, et beaucoup de jeunes, et donc j'ai choisi de les rendre aussi à un public plus large en publiant une sélection, donc pas toutes ces lettres, mais par exemple...
Ah oui, vous avez un exemple, au moins deux, trois phrases?
Plusieurs exemples, mais je vais juste vous lire un passage d'une lettre envoyée le 10 mars 1941 par une jeune fille qui avait 13 ans. « Chers amis les Anglais, je vous écris pensant que ma lettre vous parviendra. Je suis une fillette de 13 ans qui aime beaucoup les Anglais. Je vous écris pour vous faire savoir la haine que j'ai contre les Boches. Je serais très heureuse que vous lisiez ma lettre à la radio, car nous vous écoutons tous les soirs et tous les midis. Ici, presque tout le monde connaît vos chansonnettes. Lorsqu'on les entend au poste de TSF, nous les chantons en même temps. La petite académie que vous faites le jeudi et le dimanche nous amuse beaucoup, etc., etc. » Et donc, beaucoup de témoignages, beaucoup de jeunes, et qui aussi demandent aux gens de Londres, dites-nous ce que l'on peut faire, soit sur place, pour en être, pour devenir des résistants en fait, soit pour vous rejoindre. Donc ces jeunes étaient très présents, et puis après des hommes, des femmes aussi, qui vraiment font partie, on peut dire, dans l'histoire telle qu'elle a été racontée, de cette masse qu'on appelait les attentistes. Vous savez, on disait,
oui, il y a les collabos et les résistants.
C'est ça, voilà, les collabos, alors les résistants et les attentistes, cette masse informe de Français qui attendait. Mais non, c'est pas si simple que ça. Et l'histoire, c'est pas blanc ou noir, en fait. Oui. Et donc, parmi ces attentistes, eh bien, certains ont agi, vraiment, ont suivi des conseils lancés sur les antennes de la BBC, et puis sont entrés, en fait, en résistance civile, sans agir de la même façon ou par rapport aux résistants l'arme au poing, mais ils ont été vraiment des auxiliaires, des alliés.
Parmi les résistants jeunes, beaucoup résistaient aussi parce qu'ils refusaient le STO, service de travail obligatoire. Ils refusaient qu'on les envoie dans un pays ennemi comme quasi-esclaves. Et puis il y a donc peut-être cette autre forme de recrutement, alors pas pour les gens de 13 ans, évidemment, mais est-ce qu'on sait si dans les rangs des résistants, arme au poing pour le coup, Radio Londres a eu un impact réel?
C'est-à-dire pour faire en sorte qu'il y ait des recrutements. Oui, alors il faut dire que finalement Radio Londres a agi, mais les Allemands eux-mêmes ont provoqué cela. Puisque on parle de propagande, il faut dire que la propagande, elle était diffusée finalement sur toutes ces radios. Hein, les Anglais aussi avaient leur propagande. Si ce n'est que cette propagande, elle suivait une ligne, et la ligne, c'était vraiment de dire la vérité, déjà quelle qu'elle soit, même quand ce soir les nouvelles sont mauvaises. Voilà, les auditeurs entendaient ça. On disait la vérité. On leur cachait juste les informations qui servaient les troupes sur le terrain. Il fallait pas donner des informations importantes à l'ennemi. Mais par contre, sur Radio Paris, Radio Vichy, vraiment les Allemands prônaient une collaboration, et en même temps, dans la vie au quotidien, les Français souffraient. Donc il y avait des restrictions, des réquisitions, et puis des arrestations. Donc à partir du moment où l'opinion publique n'est pas de cœur et a des griefs en fait contre les personnes en place, bien sûr que la propagande joue moins quand même. Donc quelque part, avec ce travail obligatoire, avec la relève, enfin c'est cette obligation avec le STO faite à des jeunes d'être envoyés en Allemagne pour alimenter vraiment les armes pour les Allemands.
Parce et que en plus, moralement, c'est terrible.
C'était pour travailler dans les usines, donc pour aider l'économie allemande. Et donc, beaucoup se sont enfuis, ont décidé de rejoindre des maquis et des groupes de résistants dès qu'ils en avaient la possibilité.
Alors nous avons décidé de donner la parole à une partie du public. Alors évidemment, vous êtes très nombreux et nombreux. On va donner la parole à au moins deux élèves, à commencer par Emera, qui est élève de seconde, membre actif de la web radio du lycée Évariste Galois, en l'occurrence, et de Sartrouville dans les Yvelines. Emera, vous pouvez poser votre question.
Merci. Alors, je voulais savoir en quoi la guerre des ondes représente-t-elle un tournant dans l'histoire de la radio ?
Très bonne question, merci Enora. Ce fut un véritable tournant. Alors, cette guerre des ondes a été un tournant et la BBC a aussi été un tournant parce que c'est la première fois qu'on voit une radio être capable de transformer des hommes, des femmes, des enfants en résistants civils. Et d'ailleurs, c'était pas forcément l'objectif de la BBC au départ. Au départ, c'était plutôt de provoquer une résistance des esprits et des cœurs. Donc, résister par les mots et puis par les cœurs, les esprits, mais pas forcément par les actions. Et puis ce sont les jeunes, finalement, qui ont donné cette idée, d'abord au général de Gaulle, le 11 novembre 1940, en France, des jeunes décident de manifester. Donc le mot d'ordre passe dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Il faut savoir que depuis l'occupation de la France, toute manifestation était interdite en France. Les drapeaux tricolores étaient interdits, la Marseillaise était interdite. Voilà. Donc ces jeunes-là disent nous, on va aller honorer les morts et on va aller donc déambuler afficher les trois couleurs pour au moins montrer qu'on est pour la France et contre cette occupation. Et ils vont défiler. Et donc, depuis Londres, de Gaulle se dit, mais il y a ce formidable creuset de résistance civile en France. Et donc, ce sont ces jeunes qui ont transformé, quelque part, par leur action, la radio de Londres en arme de guerre qui allait pousser, par des mots d'ordre et par l'action, pousser des Français à devenir des résistants civils ponctuellement, mais quand même, et rester complètement mobilisés, et aussi devenir des auxiliaires au moment du débarquement, parce que vous avez raconté effectivement ce débarquement, mais il faut dire que des mots d'ordre et des messages ont été lancés à la population civile, selon les secteurs géographiques, en fonction des avancées des alliés, pour en faire des auxiliaires. Ouais. Et donc tous les messages étaient très, très bien balisés et préparés.
Merci.
Les auteurs des propos qu'on a entendus, alors les propos de Henriot, évidemment, mais il y avait d'autres voix, tous ceux qui ont participé, toutes celles qui ont participé à Radio Paris et à Radio Vichy. Est-ce que ces personnes ont été retrouvées, condamnées par la justice après la guerre, ou est-ce qu'on retrouve dans cette thématique habituelle qu'il faut pas, qu'il faut aussi la réconciliation nationale et que certains peuvent passer à travers les gouttes, mais eux?
Non, vraiment, ce travail d'épuration a été réalisé dans beaucoup de secteurs et notamment dans ce monde des médias. Certains donc de ces collaborateurs directs, journalistes, speakers, comme on disait à l'époque de Radio Paris ou Radio Vichy, ont fui, donc sont partis en Allemagne. D'autres ont été arrêtés et par exemple une autre grande voix de cette époque, aux côtés de Henriot, il y avait aussi un homme qui s'appelait Jean-Hérold de Pacqui. Et Jean-Hérold de Pacqui a été arrêté, jugé et donc fusillé en octobre 1945 au fort de Châtillon.
Oui, en plus il y a des preuves, il suffit d'écouter les bordes, oui. Et on entend ce qu'ils disent, voilà. On va prendre une deuxième et dernière question, celle de Jeanne, élève de terminale du lycée Christophe Colomb de Sucy en Brie, c'est dans le Val-de-Marne. Bonjour.
Bonjour, alors moi ma question c'est la décision de Radio-Land d'utiliser l'humour, notamment avec Pierre Dac, pour déconstruire les propos de Radio Vichy, a-t-elle été déterminante dans cette guerre des ondes ?
Merci Jeanne. Cette question de l'humour, elle est très importante parce que dès le début, dès 40, donc avant l'arrivée de Pierre Dac à Londres, Michel Saint-Denis, alias Jacques Duchesne, c'était son nom sur les antennes, Jacques Duchesne, il décide de recruter autour de lui justement des humoristes. Et dans ce sens-là aussi, Radio Londres a complètement innové et elle a permis d'être inspirante et même de créer la radio de demain avec beaucoup d'imagination et de propositions, dont ton des sketchs, des chansonnettes, de l'humour sur les antennes. Mais quand Pierre Dac rejoint Londres, on est quand même en octobre 1943. Alors, depuis un an, il cherchait à rejoindre Londres. Mais c'est très important parce qu'à ce moment-là, même si lui, il a cette figure de l'humoriste, de l'amuseur, du loufoque, il sait qu'il ne peut pas aller trop loin. Parce que dans cette période-là, les Français sont lassés d'attendre le débarquement. Et eux-mêmes, ils écrivent dans des lettres nous n'en pouvons plus de la légèreté sur les antennes. Et donc, on vous demande de nous faire écouter la Marseillaise, donnez-nous les infos, informez-nous de ce qui se passe sur le terrain militaire. Et donc, on voit bien que dans les consignes et dans l'éditorial tel qu'il est mis en place sur les antennes de la BBC, il y a une bascule. Et on n'est pas dans l'humour tel qu'il était pratiqué par Pierre Dac avant. Donc, Pierre Dac, quand il arrive, il sent qui n'est pas dans ce moment-là où il peut tout faire. Et il va prendre une semaine pour observer justement ses camarades à l'antenne. Et lui-même le dit, j'ai décidé d'intervenir en citoyen avec l'arme du sourire. Donc c'était plus le sourire que l'humour, mais après c'était un virtuose des mots et il a vraiment des formules qui font mouche. C'est un amuseur, il le reste, mais il agit en patriote et il le dit lui-même, le patriote qui va utiliser le sourire. Donc c'est très important de sentir ça. Et oui, on peut dire que cet humour du manière générale sur ces 4 années ont quand même servi à garder l'espoir, garder un lien très fort avec cette population française qui était asservie, hein, qui était quand même sous la botte allemande et avec ce gouvernement de Vichy qui prenait lui aussi la collaboration. Donc l'humour a fait la différence, mais vous avez aussi entendu dans le récit précédent que Radio Paris et Radio Vichy ont récupéré la méthode. Ouais. Et donc ils ont mis en place, d'ailleurs sur les antennes de Radio Paris, il y avait une émission qui s'appelait Au rythme du temps. C'était un copier-coller des Français parlent aux Français. Donc vraiment, Radio Londres a initié, et puis les Allemands ont copié, et eux-mêmes utilisaient de l'humour, mais tellement acide, avec ses propos anti-juifs, anti-francs-maçons, anti-alliés, enfin c'était du fiel hein, qui était déversé.
Alors, on a entendu, oui.
Donc voilà, la violence était tout autre.
Alors, cela dit, Radio Londres est aussi une radio de propagande.
Tout à fait.
Pendant la guerre, évidemment, ça peut se comprendre. Les informations sont relues par les autorités britanniques qui peuvent les censurer.
Oui, tout à fait. Une censure s'applique sur tous les textes. À l'époque, il faut savoir que tous les textes radio étaient écrits. Donc ça, c'était une pratique de l'époque. Le métier se faisait comme ça, on écrivait.
Et donc, aujourd'hui encore, vous savez.
Alors, aujourd'hui, on écrit beaucoup, mais on s'en échappe.
Bien sûr.
Mais dans cette période de guerre, interdiction totale de s'en échapper. Parce que derrière la vitre, donc à Londres, vous aviez ce qu'on appelait un switch sensor. Donc c'était celui qui, si jamais le speaker ou le journaliste déviait du texte qui avait été quand même contrôlé quelques heures avant, eh bien, on tournait un bouton pour arrêter l'antenne. Parce que le risque à l'époque, c'était que quelqu'un pro-allemand se soit infiltré dans l'équipe et qu'il y ait des messages qui soient diffusés depuis Londres à destination du camp ennemi.
Alors, une dernière question, qu'est-ce que ça passe vite. Les trois radios se traitaient mutuellement de menteuses. Les Français, au beau milieu de la guerre, étaient un peu perdus. Comment distinguer le vrai du faux? Finalement, les fake news existaient déjà, mais là, aux conséquences terribles. Parce que tout a une conséquence terrible dans cette période qui est abominable, hein, qu'on a eu la chance de ne pas connaître. On prend toujours conscience de ça quand on se penche là-dessus. Donc, comment les Français s'en sortaient
pour faire le tri?
Bah oui.
Compliqué, mais enfin compliqué. En même temps, ils savaient de toute façon qu'en France, tous les médias étaient contrôlés. Donc la censure existait partout. Ils savaient aussi que ce qui se passait sur les antennes de Radio Londres, c'était quand même une vérité. Qui tout n'était pas dit, mais ce qu'on leur disait, c'était la vérité. On ne leur cachait rien. Donc ensuite, la pratique du bouche à oreille, vous savez, les personnes s'informaient. Ceux qui étaient d'ores et déjà pro-allemands, pro-Vichy, écoutaient les antennes, et puis les autres, bien voilà, naviguaient dans cette proposition média.
Merci infiniment, Aurélie Luneau, pour
Merci
les éclairages que vous venez de nous apporter. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, la guerre des ondes. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, à la technique pour cette émission particulière. Il y avait notamment Cédric Chatelus à la prise de son, Nicolas d'Espace Graff à la sonorisation, Maxime Bayol à l'éclairage, François Bory à la régie vidéo. Merci aux équipes du studio 104 et Antoine Lee, délégué éditorial de Radio France, chargé de l'égalité des chances, d'avoir coordonné cette émission avec la semaine de la presse à l'école. Voilà, merci.